Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Entente cordiale, l'émission qui présente le vocabulaire français utilisé quotidiennement dans la langue anglaise. Aujourd'hui, le vocabulaire diplomatique. Langue de la diplomatie par excellence à partir du XVIIIe siècle, après avoir détrôné le latin qui présentait tous les inconvénients liés aux langues mortes, le français a laissé jusqu'à aujourd'hui une réelle empreinte dans le vocabulaire anglais. C'est d'ailleurs assez paradoxal puisque, depuis 1919 et la signature du traité de Versailles par la plupart des belligérants de la Première Guerre mondiale, c'est l'anglais qui a pris la première place comme langue des relations internationales. La rédaction en anglais du traité de Versailles, en 1919, un traité sous influence américaine, a provoqué une certaine indignation en France. Il marquait en effet la fin de l'exclusivité, vieille de 2 siècles et demi, du français comme langue diplomatique. En cela, il ne fait qu'entériner le fait que pour la première fois, des pays non européens avaient participé à un conflit et que celui-ci était d'une dimension planétaire. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, lors de la conférence de San Francisco en 1945, première grande conférence internationale et assemblée constitutive de l'ONU, on admet 5 langues officielles qui sont le français, l'anglais, le russe, l'espagnol et le chinois. En matière de langue de travail, les États-Unis proposent cependant l'anglais. Elle était déjà la langue la plus répandue, celle des affaires et de l'économie. Mais les autres délégations s'inquiètent alors d'une hégémonie anglo-saxonne sous couvert de la langue. Elles font des efforts pour s'opposer à l'anglais comme langue unique. Ces nations se rangent derrière le représentant français de l'époque, Georges Bidault, pour appuyer l'adoption du français. Ce jour-là, vote contre l'anglais, tous les pays de l'Amérique latine, du Proche-Orient et l'URSS. Le français est ainsi admis à 1 voix de majorité. Plus tard, en 1962, 35 délégations sur 105 s'exprimaient encore en français à l'ONU. Et en 1966, 43 délégations sur 112 s'exprimaient toujours en français. Il en résulte, à l'ONU, qu'aujourd'hui, dans une séance plénière, on ne traduit pas ces 2 langues que sont l'anglais et le français. En 2008, le français reste de droit, langue officielle et de travail de pratiquement toutes les organisations internationales. C'est le cas de l'ONU, mais aussi de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe. C'est aussi le cas du CIO, mais, dans les faits, c'est souvent en vain, car il doit coexister avec l'anglais, qui s'est imposé comme la langue dominante du fait du nombre de locuteurs naturels de cette langue et de la prééminence des États-Unis en matière politique, économique et culturelle. Alors l'anglais a d'abord emprunté au français certains termes qui désignent le corps diplomatique lui-même. Ainsi parle-t-on d'ailleurs de « corps diplomatique » en Angleterre, et ainsi trouve-t-on les lettres « C » et « D » en majuscules sur les plaques d'immatriculation des voitures appartenant aux ambassades et aux légations de pays anglophones. Dans ses mémoires intitulées « The Glitter and the Gold », l'ex-duchesse de Marlborough, Consuelo Vanderbilt, se souvient des règles de préséance auxquelles devait s'astreindre une femme du monde à la cour de St. James, avant 1914, lors d'une présentation officielle. « She approached the day and bowed proudly, and yet, such grace, first to the corps diplomatique, then to the peeresses, off the throne, and finally proudly to the assembled company. » De même, parle-t-on aujourd'hui encore, outre-Manche, d'attaché. Dans un temps où le fax et l'Internet n'avaient pas banalisé le rôle des attachés d'ambassade chers à Roger Perfit, on croisait dans les dîners en ville toute une flotte de 6 millions attachés dont la jeunesse était parfois cause de petites gaffes, comme le rapporte, là encore, la duchesse de Marlborough dans ses mémoires, je cite, « Even though the butler announced the Duchesse de Noailles, a flustered attaché later presented her as the Duchesse de la Trémoille. On précisera au passage que tout comme les Français, les Anglais utilisent en pareille circonstance le mot « gaffe ». On trouve aussi le terme de chargé d'affaires, mais il est semble-t-il réservé aux seules affaires économiques. Dans une nouvelle intitulée « Istidia and Company », destinée à paraître en langue anglaise, le romancier et diplomate français mais anglophile, Paul Morand, pouvait ainsi écrire « The wife of the British chargé d'affaires, always on the alert to avoid a scandal, looked at him. She had decided to make allowances. » Par ailleurs, le recours aux agents provocateurs pour l'exécution de mesures de haute police passe par l'utilisation du même terme qu'en français. Pour l'anglais de la rue, néanmoins, agent provocateur est d'abord le nom aujourd'hui d'une célèbre marque de sous-vêtements féminins britanniques. Cela dit, l'hiver dernier, dans le Sunday Times, on relevait cette phrase à propos d'un agent anglais longtemps redouté à l'Est pour sa capacité à recruter des espions au profit de son gouvernement. His name was listed in a manual for Russians who traveled abroad as an example of dangerous agent provocateur to be strictly avoided. Pour désigner quelques potentats qui provoqueraient des états d'âme aux membres du Foreign Office, on parlera aussi volontiers de « bête noire », un rôle actuellement dévolu dans la presse anglo-saxonne à M. Mugabe. Relevé dans le Times récemment, cette phrase à propos d'un historien qui se veut provocateur dans son analyse des causes des croisades. His talent is entertainingly on display in his treatment of the medieval conflict of Christianity and Islam and that bête noire of left-thinking people. Par extension, lorsque de bête noire, c'est un entourage politique tout entier qu'on s'attaque, on parlera de clique ou de classe politique. Dans un article récemment publié par le Sunday Times sur les prémices de la Révolution française, on trouvait ces lignes. It was a clique of republican-minded citizens, writers, lawyers, that owed its influence to the personal antipathies of the King Louis XVI. Pour peu que l'on souhaite isoler un État dont les affres révolutionnaires inquiètent ses voisins, on parlera alors de cordon sanitaire, suivant une terminologie qui fut naguère utilisée contre la Russie soviétique durant l'entre-deux-guerres. Témoin, ces deux phrases extraites pour l'une du Sunday Times du 9 décembre 2007, je cite « The curtain itself took various forms, armed blockades, cordon sanitaire of smaller nations, as the Western countries try to protect themselves from the Bolshevik baboon. » Et l'autre exemple, du roman d'Orhan Pamuk, Istanbul, Memoirs of a City. When the empire fell, the new republic, while certain of its pupils, was unsure of its identity. The only way forward, its founder thought, was to foster a new concept of Turkishness, and this meant a certain cordon sanitaire from the rest of the world. Si jamais l'on chargeait un certain 007 de fomenter quelques troubles dans un pays devenu ennemi, on parlerait cette fois de coup ou de coup d'État. Les deux expressions se retrouvent dans la presse anglo-saxonne à intervalles réguliers. On parle encore parfois de coup de force. Évoquant un coup d'État fomenté en 1979 dans un pays africain avec la complicité d'une puissance étrangère, la presse britannique proposait il y a peu la phrase suivante. « De coup de force » was led by young officers in the Army and Air Force. Most of them were trained in the Soviet Union. Signalons encore que les mots « espionnage » et « surveillance » sont eux aussi usités outre-Manche, et comme le travail des diplomates finit là où commence celui des militaires, reprenons ce « cri de cœur » comme disent les Anglais, et avec nos ambassadeurs, crions « à bas la guerre ». L'expression était ainsi présentée en conclusion d'une recension par le Sunday Times d'un film décrivant des scènes de fraternisation spontanée dans les tranchées la nuit de Noël 1915. France and Germany were serenading each other with Christmas carols and sentimental ballads and denouncing the conflict with cries of « à bas la guerre ». C'était Entente Cordiale, l'émission qui revisite le vocabulaire français en usage dans la langue anglaise. La prochaine fois, nous évoquerons la gastronomie.